On met un morceau de Shabba Fadela, un morceau de Rai. Katia Camelli, ça vous raccroche à quoi comme souvenir?
Quand j'écoute du Rai, la première image qui me vient en tête, c'est une bande de cousins assis en bas de la maison familiale à Médéa, qui sont installés autour d'un ghetto blaster. Il y en a deux qui jouent au domino, et puis il y en a un troisième qui rembobine une cassette avec un stylo bic.
Vous avez une grande collection de cassettes de Rai?
Oui, c'est vrai, je commence à en avoir une petite, grande, voilà. Mais j'aime beaucoup la cassette, en fait, parce que c'est évidemment l'objet qui... c'est l'objet du Rai, en fait. C'est ce qui a permis, c'est ce qui a permis à cette musique de voyager, en fait.
Cette chanson, c'était à l'époque, quand elle est sortie, elle a fait un beaucoup de succès, quoi. C'est, je me rappelle, quand elle est sortie, moi, j'ai acheté la cassette... Et voilà, on a tout écouté, quoi.
Et vous vous entraîniez, Mohamed Lamouri, à chanter?
Moi, je traînais à chanter. Moi, à l'époque, comme je vois son clip, à l'époque, comme Rachid Baba Ahmed qui l'organise avec Fadela, et qu'il met le clip qui s'appelle Blood Music. Mmh. C'était le présentateur Karim Dynamic.
C'est ça. Et, émission géniale.
Émission à la télévision.
Ouais, incroyable.
Ouais, ouais. Donc...
Mohamed Lagdar Tati, vous écoutiez des cassettes de Rai aussi?
Oui, alors moi en ce qui me concerne, à l'écoute de cette chanson, ça me renvoie à une sorte de parenthèse enchantée qui était une période entre 88 et 91-92. On avait l'impression que l'étau venait de se défaire et que... Cette ère-là apportait une insouciance, une sorte de légèreté que nous ne connaissions pas avant. Et en même temps, il y a quelque chose d'assez dramatique dans cette chanson-là qui annonçait après les moments durs qu'on allait vivre. Donc voilà à quoi ça me renvoie, cette chanson.
الدارنا اللي كنت نسكن فيها كي كنت صغير في الكولوار حسيت نفس دافي عرفتها تكون هي جات فينا الماء يديها وخزرتها مشيتها راهم في البيت الصغيرة صبتها مرمي في الكولوار ليك شوية صبت واحد آخر عايش واحدة
Il est 23h et les images sont trop vieilles. Elles n'ont pas d'âge, elles sont périmées, elles ne disent plus rien ou elles en disent trop. Quand on arrive à Alger, il y a près de la Grande Poste un kiosque avec un mur d'images. Il y a un problème entre les images et les visages. Visuellement, ça ne va pas. Passer de l'un à l'autre, ça ne va pas. Ça ne ressemble pas à ce qu'on a sous les yeux au même moment dans la rue. Il y a une différence de plusieurs décennies souvent entre les cartes postales noires et blancs et Alger qui vit. Katia Camelli filme les corps qui s'attardent, tente de reconnaître, de se reconnaître, de se reconnecter à leur histoire. Elle appelle son film « Le roman algérien ». Nous sommes tous les personnages d'un roman, le grand roman national, mais qui l'écrit, c'est difficile à dire. Entre personnages et marionnettes, parfois on hésite. Dans le film de Mohamed Lagdar Tati, « Fais soin de toi », il y a des phrases prononcées comme « Je ne peux pas être moi-même » ou comme « Je joue un personnage ». Le réalisateur fait une enquête sur l'amour en Algérie. Sa mère lui a confié que ceux qui lui rappellent que son fils n'est pas encore marié lui mettent le moral à zéro. La question sans cesse posée, c'est « qu'est-ce qui t'empêche ?» De te marier, d'aimer, qu'est-ce qui nous empêche ? Souvent, la réponse c'est qu'on est engagé dans une histoire qui n'est pas la sienne, on fait des gestes qu'on n'a pas vraiment voulu, on dit des mots et on pense à côté, un peu plus loin, en secret. Mohamed Lagdar Tati pose la question à un vieil homme. Que faire des sentiments si on ne peut pas les vivre? Et que faire quand plus tard dans le film, un petit garçon de 10 ans explique, quand il parle de l'amour, « Tu stresses, c'est comme si t'étais devant le président de la République, tu bégayes. » Comment faire quand le roman fait bégayer les corps bien vivants, qui ne savent pas s'ils disent bien leur texte? Mohamed Lagdartati se met alors à filmer tout ce qui vit, les arbres, les insectes, les orages, la vie organique, ce qui vit sans discours, la vie qui n'est racontée par personne d'autre. Et toutes les images vont dans le sens de ce titre « Fais soin de toi, prends soin des mots » et donc reprends pied dans le récit sans stress et sans bégaiement. Il y aura donc Mohamed Lagdartati, cinéaste, pour son film « Fais soin de toi », une enquête sensible sur l'amour en Algérie. Le film est projeté en novembre en Algérie avant une sortie en France. Il y aura l'artiste vidéaste Katia Kameli pour son film en deux parties, le roman algérien, qui sonde le rapport des Algériens et des Algérois à leur histoire et à leur ville. À la musique, Mohamed Lamouri et son raï sentimental. Sa mixtape est disponible sur le site de La Souterraine et il sera en concert le 28 octobre au Transborder à Lyon en première partie d'Amadou et Mariam. Et enfin, en fin d'émission au téléphone, nous serons en ligne avec le metteur en scène Jean-Christophe Meurice. C'est une vie d'artiste sur France Culture. Ça commence par la voix d'un garçon d'une dizaine d'années à Alger.
انا الحب الحب هو شعور بالحنان انا في الحقيقه الحب انا سمعتها في فيلم تبدا شعور تخاف تبدا تخاف ومن بعد الخجل طافو زعما الخجل تحشم وكاع
بصح تبدا تخاف كي ماشي تخاف من واش
تخاف من واش تخاف هكذا استماس يا اخي تعرف كي تكون زعما قدام رئيس الجمهوريه ويبدا يسقسيك اسئله تبدا تمقمق كاع ايه هذاك هو لازم تكون مسرح
Un extrait du film « Fais soin de toi » Mohamed Lagdartati et on entend ce petit garçon dont je parlais qui a 10-12 ans j'imagine et qui raconte là que l'amour c'est un grand stress et que justement on bégaye, c'est comme quand si on était devant le président tout à coup. Il vient d'où cet immense stress?
Moi, je pense que il vient du fait que le sentiment amoureux c'est un événement dans la vie d'une personne. Je pense qu'il y a deux événements dans la vie d'une personne, la mort et l'amour. Et ce stress-là est enfui, en fait, dans une sorte de vie sociale qui nous empêche de penser à ça.
Mais il n'y a pas que votre mère, Mohamed Lagdartati, qui vous dit « marie-toi ». Il y a aussi ce petit garçon qui, au bout d'un moment, dans la discussion, vous dit « mais pourquoi tu ne te maries pas? Il faut que tu te maries ».
Mais en fait, c'est tout le monde qui me dit ça, si vous avez remarqué. Tout le monde me pose la question. Et justement, quand on parle de sentiments amoureux, en Algérie, on a tendance à bifurquer sur le mariage. Parce que le mariage est censé rendre légitime ce sentiment amoureux. Mais moi, je pense que le mariage était une sorte de palliatif ou de pare-feu pour tempérer le sentiment amoureux. Donc, c'est plus facile pour ma mère de me parler de mariage que de sentiments amoureux. Et pour tout le monde, d'ailleurs.
Mais la question, très vite, c'est moins pourquoi tu te maries pas, enfin, quand est-ce que tu te maries, que qui tu vas marier, avec qui tu vas te marier. Et d'ailleurs, ce petit garçon, il a une idée pour vous.
Oui. Oui, une sorte de canon esthétique ou de beauté.
Plutôt une femme blanche et plutôt voilée.
Voilà, oui. Plutôt une femme blanche, voilée. Bon, je pense que c'est... En fait, le petit garçon, il a 9 ans, c'est mon neveu. Et la femme blanche, parce que ça fait partie d'une histoire un peu familiale.
Il dit, il y a trop de noirs dans la famille.
Exactement, mon père est noir, ma mère est blanche, donc nous on est un peu métis. Et comme moi, je pense qu'il souffre de ça à l'école. Moi, durant mon enfance, j'ai été stigmatisé. J'ai beaucoup souffert de ça. Il m'a fallu beaucoup de temps pour l'accepter et pour le vivre normalement. Par rapport aux femmes voilées, ça c'est un autre symptôme, beaucoup plus sociétal, lié à la période que traverse ce genre de société en ce moment. Donc pour lui, une femme voilée, c'est une sorte de garantie de pureté d'âme, si j'ose dire.
Mais d'ailleurs, vous parlez des mots des autres qui influent les mots des autres à l'école, qui vous décrivez, j'imagine, d'une façon ou d'une autre. Votre mère, parce qu'au début du film, votre mère apparaît assez rapidement, justement, on vous pose la question du mariage, et très vite, elle parle moins d'elle que des autres, et des mots des autres qui lui disent « ton fils, il n'est pas encore marié », et c'est ça la vraie douleur, finalement.
C'est quand il s'agit de sentiments amoureux, c'est d'abord, il y a une posture sociale. C'est-à-dire, socialement parlant, à quelle norme on se réfère? À quoi on fait signe? Et ma mère, effectivement, pour exprimer sa douleur ou son chagrin, fait parler les autres. Fait parler les autres. Pour elle, c'est le summum de la douleur. C'est-à-dire que on n'est plus à assumer soi-même la défaillance. Elle est portée par le regard des autres. Donc c'est ça la posture sociale. Mais c'est-à-dire dans le comportement des autres personnes qui interviennent dans le film, on voit ça tout le temps. C'est-à-dire il y a une sorte de va-et-vient entre une posture sociale et une posture plus individuelle quand les choses commencent à être posées dans l'échange.
Et la première femme dont vous êtes tombé amoureux, c'était votre institutrice.
Oui, oui, effectivement. Je racontais même que à des copains qu'elle était amoureuse de moi, que j'allais chez elle et qu'elle m'offrait des gâteaux. Je sais pas, le sentiment amoureux me fait raconter des histoires, ce qui est génial.
Et pourquoi vous avez eu envie d'aller interroger les autres, justement, d'aller traverser Alger et puis un peu plus loin dans le pays pour trouver des réponses à vos questions à vous?
En fait, c'est pas de trouver des réponses à moi, c'est donner des réponses à ma mère qui me fait voyager ou qui me fait tourner vers les autres. Moi, j'étais incapable de lui dire quoi que ce soit. Il y a cette espèce de pudeur dans notre éducation qui nous empêche de parler du sentiment amoureux. Moi, mes réponses allaient être tournées vers le sentiment amoureux. Mais c'est une chose que je pouvais pas dire à ma mère directement. Et c'est-à-dire, comme tout le monde dans le film, je fais porter ma parole par d'autres personnes.
Katia Kameli, c'est facile de filmer l'amour en Algérie? Vous
non,
êtes déjà posé cette question?
Oui, bien sûr, je me suis déjà posé cette question. Et d'ailleurs, je l'ai un peu filmé dans un film qui s'appelle « Bledi, un scénario possible ». C'était en 2003 et ça passait par le téléphone en fait. Donc voilà, ça répond sûrement un peu à votre question. En fait, non, je pense qu'effectivement, enfin, j'ai vu le film de Tati et oui, ça m'a touchée parce qu'effectivement, c'est le sentiment amoureux. On peut pas vraiment. C'est quelque chose qui est difficile à aborder.
D'ailleurs, vous essayez de rentrer dans les intérieurs, vous filmez des balcons, des fenêtres. Forcément, vous êtes obligé de vous arrêter à ce seuil-là, mais vous essayez d'aller capter quelques images intimes comme ça dans la ville.
En fait, c'était pas l'envie d'aller capter des intérieurs particulièrement. En fait, l'idée était de rendre compte de cet espace de l'intimité qui fait signe, en fait. Moi, je pense que la société algérienne en général laisse beaucoup de place aux sentiments amoureux comme signe, en fait. C'est vrai que les mots, parfois, ou souvent, sont un peu fragiles autour de sentiments amoureux, mais la société, en soi, elle laisse beaucoup de place pour que l'amour fascine, en fait. Donc les balcons, la rue, tout ça, c'est en fait c'est des marqueurs du sentiment amoureux. Au fait, ce qui est difficile dans le sentiment amoureux dans des sociétés comme la société algérienne, c'est que quand je parle d'événements, c'est le moment, le lieu où l'individualité éclate. L'individualité se fait présente, alors que dans les pratiques en général de la société, l'individu est un peu amené à s'effacer, à se dessoudre dans le tissu social. Et du coup, l'organisation de la société fait en sorte à ce que donc l'individualité disparaisse, mais on laisse quelques espaces, quelques lieux où le signe du sentiment amoureux, donc la convocation de l'individu, puisse s'exprimer. Voilà pourquoi ces images-là étaient tellement importantes pour moi.
Et c'était simple, justement, de s'exprimer pour les personnes que vous rencontriez, parce que au début, vous riez avec un monsieur dans la rue sur ça, en disant « je trouve personne pour témoigner sur l'amour, comment faire ?» Et lui, il vous dit « allez voir les vieux qui vous racontent leur expérience. »
Oui, au départ, en fait, j'ai commencé le tournage du film en me disant « mais qui va accepter d'être filmé ? Qui va accepter de témoigner directement ? Qui va porter une parole sincère face à une caméra ?» Mais très vite, je me suis rendu compte que les gens avaient tellement envie de parler de ça. Il y a une telle demande. Certaines personnes ont vécu l'expérience comme une sorte de séance de thérapie, au fait. Donc, il y a une... on a tendance à dire que c'est le sentiment amoureux ou l'amour en Algérie, c'est tabou. Mais en réalité, non. Justement, le téléphone... où les discussions entre amis ne tournent qu'autour de ça, au fait. Donc, il y a un mal-être, il y a un malaise par rapport à ça, effectivement. D'ailleurs, moi, je pense que le sentiment amoureux cristallise toutes les tensions qui traversent la société algérienne. Voilà pourquoi, pour moi, il était important de faire un film sur le sentiment amoureux en Algérie aujourd'hui. Parce que c'est une société qui vit une sorte de déstructuration. Le modèle traditionnel ne tient plus... la modernité angoisse et le résultat de tout ça, c'est qu'il y a une déstructuration. Pour moi, elle est salutaire. Après, dans une déstructuration, il y a beaucoup de, bien sûr, il y a beaucoup de douleur, il y a beaucoup d'incertitude. Et du coup, il y a des tensions.
On va écouter un nouvel extrait du film « Fais soin de toi ». C'est un vieil homme que vous avez rencontré. Alors, on écoute sa voix qui est en arabe dans le film. Et puis, Mohamed Lakhdartati, vous allez traduire.
D'accord.
Par exemple, واحدة فيهم اللي راح تقول لها بالك انت يا عندك بيرو ديتود ولا سوسيتي ولا est-ce que le حقت حتى وين حبيتها.
Parmi les femmes à qui tu as dit que tu étais chef d'entreprise, est-ce qu'il y a une que tu as aimée ou qui t'a aimée? Il y a bien de l'amour et même réciproque. Mais comme je le disais, à la dernière phase, ça demande de l'argent, un logement, de quoi faire une vie. Alors il n'y a pas d'amour, c'est une affaire d'argent. Il y a l'amour, mais pour le vivre, il faut de l'argent. Il faut que tu sois riche ou que tu aies un héritage. C'est ça la réalité. Bien sûr que les relations humaines, les sentiments existent. Que faire des sentiments si on ne peut pas les vivre? Que dire? Ta question me donne le vertige.
Il ne faut pas les sentiments,
il ne faut pas emprisonner les sentiments. Il ne faut pas les mettre en prison. Il ne faut pas les refouler. Les sentiments, il faut les porter fièrement. C'est-à-dire, il ne faut pas se laisser dépérir. Il faut sortir, fréquenter. En un mot, ne pas se mépriser. Il faut se bouger. Qui sait que ce que Dieu nous réserve? Et puis la vie est une jungle. Soit tu tombes sur un lapin et tu le manges, soit sur un lion et là c'est toi le dîner.
Ta question me donne le vertige. C'est ça qui répond à votre question à vous. Que faire des sentiments si on ne peut pas les vivre?
Oui. Ben, le sentiment de vertige, c'est exactement à quoi font face les gens quand il s'agit du sentiment amoureux. L'émergence de l'individu comme sentiment premier face à la société, ça crée une sorte de déchirement. Les gens se sentent un peu perdus. Ils n'ont pas à quoi se référer. Et dans cette agitation, ils se cherchent. Ils font un petit mouvement, un mouvement infime qui fait, en fait, ce qui apparaît dans cette contradiction quand les uns me disent, enfin, je sais pas, vous n'avez pas gardé l'extrait de jeune garçon qui me dit, moi, il me faut une femme sans passé. Mais si tu trouves une femme sans passé, je te mets un dinosaure dans un sachet. Et il est avec une fille. Bien sûr qu'elle a un passé. Mais quand il parle d'une femme sans passé, c'est ça la posture sociale. Socialement parlant, il faut une vierge, il faut une fille qui n'a pas eu de relation avant. C'est le monde clean de la société. L'individu en lui, il est tombé amoureux d'un geste, d'une posture, d'un sourire, d'une odeur, et tout ça est représenté dans une femme qui a un passé. Il essaie d'oublier ce passé. Donc ce petit mouvement, ce petit glissement entre la posture sociale et la posture et puis l'émergence de l'individu fait en sorte que le vertige devient quelque chose de poétique, de créatif au fait. Donc c'est un moment de création pour eux.
Pour revenir à la relation homme-femme, vraiment de façon plus spécifique, plus intime, on en avait déjà parlé une fois, j'ai l'impression que l'un des problèmes, c'est ce qu'on appelle le syndrome de la maman et la putain. C'est-à-dire que dans mes rapports avec les hommes que je rencontre, qui pourraient éventuellement être intéressant, j'ai toujours l'impression de, on attend de moi que je sois l'une ou l'autre. C'est-à-dire, soit tu es la sainte auquel on ne touche pas, qu'on sublime et qu'on laisse dans un coin pour épouser parce que c'est l'idéal. Et là, après un certain âge, ça ne marche plus. Soit tu es la putain qu'on utilise. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Les gens bâtissent leur vie sur la peur. Ils ont peur de l'autre, ils ont peur de tomber amoureux, parce qu'ils ont peur d'échouer, parce qu'ils ont peur de qu'on leur mente, parce qu'ils ont peur qu'on les manipule, parce qu'ils ont peur. Tu vois, finalement, le dernier recours devient, bon, je vais voir ma mère, je vais lui demander de me trouver une nana en qui je peux faire confiance. Ma mère, elle a du flair.
ما يروح ما ياني واوا كي نكون معاك كي نكون معاك كي نكون معاك نكون هاني واضب كي ندير ننساك كي ندير ننساك وخيالك ما يروح ما ياني واوا.
Mohamed Lakhdar-Tati, c'était un nouvel extrait du film « Fais soin de toi ». C'est cette peur dont vous parliez, entre le désir et ce qu'impose la société, et cet espace entre les deux poétiques dont vous parlez, il est très présent dans le film parce qu'il y a beaucoup d'images contemplatives, silencieuses de la ville, des peaux, des visages, des insectes, de l'orage, de la pluie, comme un espace sensible et érotique parfois. Que vous révélez, pourquoi il était important cet espace-là?
Pour moi, cette parole dans le film, qui est très abondante, devait avoir une sorte de contrepoids, au fait. Cette parole-là, pour moi, elle est précieuse. Encore une fois, dans sa façon de se contredire, dans sa façon d'être ici et ailleurs, avait besoin de ces métriques qui seraient justement ces moments, certains l'appelleraient de respiration. Mais pour moi, c'est plutôt des moments qui font que cette parole-là traîne comme une trace, que laisse l'escargot sur un banc, partant de pluie. Voilà.
C'est assez beau parce que Alger, vous la filmez comme on a peu l'habitude de la voir, parce qu'il pleut souvent dans le film. Il y a beaucoup de brume, il y a de l'orage, c'est très... Il y a du tempérament dans la météo.
Tout appelle à se délester justement de ce questionnement de sur soi, ce retour sur soi, que ce soit le discours politique ou médiatique. Tout ça fait en sorte à ce que le retour sur soi soit complètement évacué. Même le discours religieux, je parle bien du discours religieux qui, lui, est vraiment en deçà du questionnement de l'Algérien d'aujourd'hui sur, justement, comment faire face à cet appel de la modernité. Du coup, donc, je peux dire, si on prête l'oreille à la poésie populaire algérienne, il n'y a que cette poésie-là qui porte un peu le questionnement, qui peut trouver écho justement à ce questionnement sur l'être algérien aujourd'hui.
D'ailleurs, vous transformez un peu ce cliché qu'on a de l'ennui souvent à Alger en espace de méditation, en espace de contemplation dans le film.
Oui, mais je sais pas si je le transforme. Hein. C'est comme ça que je le vis moi. C'est comme ça que j'ai l'impression que la ville nous l'offre, au fait.
Sa voix est liée au métro parisien. C'était pour beaucoup un étonnement sur la ligne 2 dans le nord de Paris. Vous l'avez peut-être vu avec sur l'épaule gauche son synthé rafistolé, chanter des reprises très personnelles de Michael Jackson ou ses compositions. Mohamed Lamouri est né en 1984 à Tlemcen. Il a chanté à 6 ans, il s'est mis au synthé à 11 ans. Il arrive à Paris en 2003. Quand il était en Algérie, dans une école pour malvoyants, il a eu comme professeur Ami Ben Osman, un luthiste virtuose qui lui a transmis le goût de la musique. Il aime le rat et sentimental. Il sort une mixtape de 8 titres sur le site de La Souterraine et il sera le 28 octobre au Transborder à Lyon, les 15 et 16 novembre au TAP à Poitiers et le 3 novembre à la Fondation Vuitton à Paris.
Je suis Katia Kameli, on est en studio avec Mohamed Lakhdar Tati et Mohamed Lamouri qui va chanter un premier titre, Edgoul Mahaftek de Shebha Hasni. Vous écoutez Une vie d'artiste d'Aurélie Charron sur France Culture et on est ensemble jusqu'à minuit.
المحبة راي ما تنسى فياش زوج خطوات بينك وبينك كلي حتى حاجة ما صمد على برا No, no, no. معناش مانيش عدوك يا ما تكرينك ما تفهمناش والحب علاش مانيش عدوك يا ما تكرينك تقول ما عرفتك انا ما عرفتينك ديك المحبة راي ما تسافياش
Katia Kamili, dans une de vos vidéos qui s'appelle « Yarai », vous avez projeté les visages de certains grands chanteurs comme Cheb Hasni sur les bâtiments dans la ville.
Ça commence à Oran, en fait, effectivement, et on est devant la devanture d'un magasin qui s'appelle Disco Maghreb, et qui était important puisque c'était un des premiers producteurs de raï. Et voilà, et en fait, on se retrouve face à cette devanture, et ce magasin était maintenant fermé. Et il y a encore cette cassette qui est en train de tomber un peu en lambeaux. Et voilà, enfin, pour moi, le raï, en fait, n'est pas un fantôme. Donc, en fait, mais bon, c'était une sorte de, ouais, une manière de faire réapparaître, en fait, ces figures qui sont, pour moi, extrêmement importantes. Parce que c'est une musique extrêmement, importante d'ailleurs, tout à l'heure Mohamed Lakhdar Tati en parlait en fait, parce que c'était une période un peu comme une sorte de parenthèse en fait, ce moment-là et la liberté qu'on peut trouver dans le raï en fait, qui est toujours présente mais qui s'est quand même un petit peu modifiée.
Mohamed Lamouri, elle représentait quoi cette figure de Cheb Hasni pour vous quand vous étiez enfant?
Ben écoute, moi j'ai grandi avec les chansons de Cheb Hasni. Et puis voilà, parce que j'étais beaucoup intéressé à ces chansons. Et que je veux dire, dommage qu'on n'ait pas rencontré personnel. Et tu vois, quand on était petit, parce que tout le monde écoute Cheb Hasni. Parce que Cheb Hasni, tout qu'est-ce qu'il dit, c'est la vérité, quoi. Ça veut dire qu'il est parti pour. Il a parlé sur l'amour, il a parlé sur de la situation algérienne, sur les. Tu vois, c'est. Ça veut dire qu'il a parlé sur le mec qu'il a ni la maman ni le père. Ça veut dire il a parlé sur les pauvretés, parce que le mec il a grandi dans la popularité quoi.
Et vous parliez de cette époque un peu d'ouverture de 88 au début des années 90. Ensuite il y a la décennie noire et Mohamed Lamouri, vous avez 12 ans à peu près en 94 quand Cheb Hasni s'est fait assassiner à Oran. Ouais. Vous vous en souvenez?
Oui, je me souviens, oui. Je me souviens comment on a regardé les informations à 20h sur la chaîne plateau algérienne, sur la chaîne plateau algérienne nationale, comme ils ont annoncé, donc on n'était pas surpris, quoi. Parce que comme il est assassiné à 11h55, à Oran devant son domicile, et c'est beaucoup trop de gens, quoi. Il y a plein de gens qui sont déplacés pour voir le Sidira rentrer à Oran à l'époque, comme c'était cet assassinat, quoi.
Ce qui peut relier les trois guerres, c'est que ça recoupe l'histoire de la formation d'une nation qui était une formation étatique avant la colonisation, qui a été détruite comme formation étatique. Et on a vu pendant toute cette période coloniale se créer les conditions d'une plus grande centralisation, d'une plus grande uniformisation du pays, et qui a débouché la naissance d'un sentiment national, parce que l'identité fondamentale avant la colonisation, c'était l'identité religieuse. C'était à partir de là que se nouait le lien social. Eh bien, avec la colonisation, va apparaître un autre type de lien, le lien national. Mais ce lien national se forge dans des conditions d'inachèvement. Ce qui fait que la guerre de libération elle-même intervient avec des formes mineures de guerre civile. Et quand tout à l'heure Benjamin Stora parlait de populations prises au piège, ces populations prises au piège, ça résulte du caractère inachevé de la nation. Tandis que la troisième guerre, elle est d'une autre nature. C'est une guerre typiquement civile, comme celle qu'il y a eu en Grèce, mais dans d'autres conditions, comme celle qui a eu lieu en Espagne. Et là, évidemment, elle est beaucoup plus douloureuse que les autres qui étaient une guerre contre un dominant étranger. اسمي قطاف وابريديس للكفاح قنغوابي ستة شمس ناقل جيبيس ميث طفات قغنيس في الصدنات ينحنكي متاواني قواني
On a entendu la voix de l'historien Mohamed Harbi, qui travaille sur le roman national algérien. Et votre film, à vous, Katia Kameli, s'appelle Le roman algérien. C'est un film en deux parties. La première partie, vous tournez autour d'un kiosque. Est-ce que vous pouvez nous décrire cet endroit qui existe depuis 1986 à Alger?
Alors, c'est faut imaginer. Donc, il est situé à un endroit très spécifique, derrière la Grande Poste, au début de la rue Larbi Ben Midi, effectivement. Et alors, on peut imaginer, il faut imaginer les grilles comme ça de la Banque Nationale Algérienne. Et là, des images qui sont tenues soit par des épingles à linge ou par un système de plastification dans lequel les cartes sont rangées, qui est installée tous les matins, en fait, donc une sorte de kiosque un peu sauvage. Moi, je le vois comme une forme d'atlas mémosine en fait. Voilà, parce que vraiment tous les matins il installe et c'est comme donc ces images qui sont des images qui viennent, qui sont des images coloniales.
Donc il vend des cartes postales, des images, des reproductions, ça coûte 20 dinars à peu près, il y a toujours du monde qui s'arrête devant.
Alors il y a les copies, les originaux. Donc voilà, il y a les cartes postales du début du siècle, donc ils vendent plus cher, et puis il y a les copies, voilà, pour ceux qui ont envie d'acheter des images.
Vous filmez les gens qui s'arrêtent, les regards, les... ceux qui repartent avec une image, qui sont forcément des gens d'aujourd'hui dans Alger, qui sont très éloignés finalement de l'époque de ces photographies. Pourquoi ils s'arrêtent si longtemps et pourquoi ils les achètent, ces photos, ces images?
Je pense qu'ils s'arrêtent si longtemps et ils achètent ces images parce qu'ils sont à la quête de leur histoire en fait, qu'on leur a un peu volé aussi, parce que c'est ce dont parle un peu à Mohamed Harbi. Et si je remprunte en fait, si, c'est pas lui qui appelle, enfin il appelle pas ça le roman algérien mais le roman national, et donc voilà, bon, moi je parle d'un contexte très particulier là, et si je l'emprunte cette expression, et si j'ai voulu faire ce film, c'est parce que ouais, je pense que il y a une sorte de roman comme ça qui a été narré aux Algériens. Enfin, les cours d'histoire commencent par la guerre d'indépendance, et je trouve ça assez curieux en fait, comme si ce territoire n'avait pas existé avant en fait. Je parle pas de la colonisation, mais avant.
Il y a des voix que vous avez interrogées qui se superposent aux images de ce kiosque et aux cartes postales. Et il y en a une qui dit bah, c'est difficile de se projeter dans le futur quand on nous a confisqué une histoire, justement. Et puis une autre qui dit on se sent pas à la hauteur de notre héritage. Et comme si aussi on vivait dans une histoire qui n'a pas été écrite par nous. Comme si on avait hérité d'une histoire, mais qu'on n'en tirait pas les fils.
Ouais, je pense qu'en fait, il y a tellement de figures historiques qui ont été effacées, en fait. Et les Algériens sont conscients, en fait. D'ailleurs, en fait, il y a une sorte d'étude sur le sujet qui dit que c'est les romans historiques qui sont le plus vendus, en fait, en Algérie. Donc, on sent bien, enfin, par ce geste-là, en fait, cette volonté de recoller les morceaux. Et voilà, donc là, il y a des figures qui réapparaissent au fur et à mesure, mais qui avaient complètement été effacées par le FLN, quoi, clairement.
Là, on peut trouver beaucoup de photographies dans le kiosque du président Bouteflika jeune. Mm. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre comme figure?
On trouve Boumédienne, les années Boum, quoi, en fait. C'est vraiment ça. C'est, je sais pas, en fait, je pense que les gens, enfin, voient en Boumédienne, comme ça, une sorte d'image. Enfin, je crois qu'il y a plein d'aspects qui sont gommés, évidemment. Enfin, on garde que le positif. Hein, mais voilà, comme ça, il y a une sorte de nostalgie, comme ça, des années Boumédiennes, en fait, là, en ce moment. Et bon, enfin, il n'y a pas de nostalgie encore. Des années Bouteflika, quoi. Mais bon, en même temps, il est un peu placardé dans toute la ville. Et effectivement, comme un personnage... D'ailleurs, en fait, c'était aussi ce qu'on voyait pendant la période électorale. En fait, on le retrouvait comme ça, placardé partout dans la ville. Évidemment, avec des images rajeunies un peu de 10 ans, en fait. Comme s'il n'avait pas bougé, en fait. Figé dans le temps. Donc c'est curieux.
Il y a évidemment un blackout au niveau des images, c'est la décennie noire.
Oui, évidemment. Et parce que de toute façon, il y a déjà eu, très peu d'images qui ont été produites pendant ces années-là, en fait. Et puis parce que je suppose que c'est aussi peut-être un peu moins vendeur. Et puis parce que c'est aussi une période qui n'est toujours pas cicatrisée, en fait.
Mohamed Lakhdar-Tati, dans un précédent film qui s'appelait Joue à l'ombre, vous filmiez à Alger et vous vous intéressiez aussi à la carte postale, cette image du passé.
Oui, j'ai filmé donc le même vendeur de cartes postales. Toute cette histoire raconte l'histoire d'une réappropriation de l'espace. L'espace Alger, hein, si on ne reste que sur le territoire algérois. La ville Alger a toujours posé problème aux autorités algériennes après l'indépendance. Qu'est-ce qu'on fait de cet espace-là? Mohamed Dib en parle merveilleusement bien dans son roman « Qui se souvient de la mer ». Faut-il raser cette ville qui ne nous appartient pas des caves de cette ville, faire sortir une autre ville, la ville authentique, ou se la rapproprier? Et ça, le processus dure encore en ce moment, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui. Donc il y avait un moment où les gens s'arrêtaient devant les cartes postales pour revendiquer leur appartenance à ce territoire. Cette réappropriation de l'espace échappe un peu au pouvoir en Algérie, mais les années 90, c'est toujours l'histoire qui appartient à l'État algérien. Les gens n'ont pas la possibilité de manipuler les images, de faire des discours sur... Vous savez, on a l'impression que les problèmes de l'Algérie ont commencé avec cette décennie noire, c'est-à-dire les années 90, alors que les années 80 étaient une période clé dans ce qu'on appelle la détestation de soi. Toute la machine de communication de la propagande de l'État algérien était tournée sur ce sujet-là, responsabiliser les gens par rapport à la crise, par rapport à ce qui s'est passé. Donc il y avait une telle violence dans la presse, dans les films algériens. Il y avait des films où on méprisait les gens parce que ils vivaient à la traditionnelle et on mettait en lumière des gens qui adoptaient un modèle moderne, si vous voulez.
Kassia Kameli, le roman algérien. Le film, il est en deux parties. Cette première partie tourne autour du kiosque à Alger. Et la deuxième, là, vous avez pris de la distance avec les images et vous avez justement questionné qu'est-ce que dans ces images on peut voir de qui annonce peut-être le futur et ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et vous avez demandé à la philosophe Marie-Josée Monzin de les regarder.
Je veux dire, l'image, l'histoire pour moi est une fiction parce qu'elle est faite, elle est brodée effectivement. C'est de la couture. Et l'image, son interprétation, c'est aussi la même gymnastique. La plupart du temps, on la lit par rapport à différents prismes, en fait. Donc, cette deuxième partie, elle analyse la première partie, en fait. Donc elle est vraiment plus centrale sur la question de l'image et la manière dont on la lit, on la produit. Et il y aura une troisième partie. On reviendra plus sur l'histoire.
Voilà. Ouais, mais de l'amourie, est-ce qu'on peut écouter un deuxième morceau, ce qui fait partie de votre roman algérien à vous? Ça s'appelle comment?
Cette chanson qui dit « Khalitini wahdi mandral », ça veut dire c'est une chanson que j'ai composée dans le métro.
On y va ?
Voilà, on y va. Merci. La 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 la
الله انا عمري ما ضنيت عقدة يسرى لكتي قلبي جامين امراه انا عمري ما ضنيت عقدة يسرى لكتي قلبي جامين امراه شعل انا قصيت انا وتعدت انا مقواني قوي لا سفريت لا 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 لا
Maurice, je suis là actuellement précisément à la Gare du Nord, même dans une cabine de photomaton pour m'isoler du bruit, puisque je vais à Douai, dans le Nord, au Tandem, pour y jouer la nouvelle création des Chiens de Navarre qui s'appelle « Jusque dans vos bras ».
Avant minuit, c'est notre coup de fil à une scène nationale en France. Ce soir, nous sommes donc avec Jean-Christophe Meurice, metteur en scène de la compagnie Les Chiens de Navarre. Pour la pièce « Jusque dans vos bras », ce sera les 17, 18 et 19 octobre, au Tandem, scène nationale de Douai-Arras, à l'Hippodrome de Douai. On parlait mémoire, carte postale, et le spectacle va convoquer quelques figures, apparemment de notre histoire française, Jeanne d'Arc, Marie-Antoinette ou le général de Gaulle. Jean-Christophe Meurice, depuis votre photomaton, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez eu envie de travailler sur le roman national français ? Est-ce que c'était pour parer à une sorte de, une forme de cynisme ou d'indifférence en ce moment ?
En tout cas, quelque chose qui me préoccupe et qui nous préoccupe dans la bande, c'est la question un petit peu, étrange et de l'identité nationale qui revient quand même plus fortement depuis les années 2000. Et on s'est posé un peu de manière idiote et un peu naïvement que c'était pour nous l'identité nationale, quoi. Donc, qu'est-ce que c'est ce concept précisément? Et pour raconter sur scène ce concept, on convoque le présent, le passé, avec effectivement certaines figures qu'on essaye de refaire vivre, bon, à notre manière, bien sûr, et puis pourquoi pas aussi questionner le futur. Donc voilà, c'est à partir de la thématique, parce que comme d'habitude avec le travail des Chiens de Navarre, on part sur une thématique et après on élabore plusieurs scènes, plusieurs tableaux.
Et puisqu'il y aura plusieurs tableaux et plusieurs personnages, est-ce que vous pouvez décrire une image du spectacle?
À un moment, il y a des réfugiés congolais qui arrivent en France parce qu'il n'y a plus du tout de place dans les foyers. Et ils sont accueillis, donc ça existe en plus, de plus en plus sur notre territoire, et ils sont accueillis par une famille française un peu bobo, bien pensante, et c'est un peu le choc des cultures, quoi. C'est-à-dire que quand les réfugiés congolais s'installent dans leur salon, donc c'est voilà. Bon, par exemple, voilà un tableau qui crispe, qui appelle un peu un rire de résistance, mais qui est aussi évoqué, on espère, avec beaucoup d'humanité. Hein. Parce que je me méfie toujours de la notion du cynisme, parce que même si chien en grec c'est cynisme, on ne l'est pas du tout. Hein. On essaye de représenter, surtout nos maladresses, et on espère
ça exprime beaucoup de choses, quoi. Voilà.
Merci beaucoup, Jean-Christophe Meurice. Vous pouvez prendre une photo dans votre photomaton et nous l'envoyer.
Ouais, après, je reviens aussi, je sais que je reviens à la Gare du Nord, on va jouer pas très loin, après, à Hôtel des Petits du Nord.
Parfait, bah, on vous attendra.
Je sais que vous le savez.
On va d'abord à Douai, et puis ensuite, on ira voir à Paris.
Au mois de novembre, au Bouffe du Nord. Voilà.
Parfait. Merci beaucoup.
Allez, à bientôt.
À bientôt. Bon train.
Ciao, ciao.
Mohamed Lakhdar-Tati, dans le film « Fais soin de toi », il y a quelqu'un qui vous dit « Ta rivale principale, si tu te maries un jour, la rivale de ta femme sera ta caméra ». C'est vrai ? Vous y avez pensé ?
Oui, effectivement. Cette question, enfin, cette remarque m'avait interpellé sur le moment. Mais sincèrement, je ne suis pas sûr que ça soit, enfin, que ça puisse être le cas. Après... je pense que dans sa façon de me dire cette phrase-là, c'était beaucoup plus, c'est-à-dire la démarche de voir ou d'essayer de regarder la vie à travers une caméra peut poser problème. Mais là, par contre, j'ai un gros doute.
Et votre mère, ça l'a rassuré le film ?
Écoutez, elle l'a vu en avant-première à Béjaïa il y a pas très longtemps. Je pense qu'elle a aimé le fait que le film existe parce qu'elle pense qu'après le film, je vais m'occuper de cette histoire de mariage. Donc maintenant, pour elle, l'étape à suivre, c'est les choses sérieuses.
Maintenant,
quoi.
Vous pouvez vous concentrer sur l'essentiel.
Voilà, exactement.
Bah, bonne chance.
Merci.
Des images trop vieilles pour des corps trop vivants à Alger, on se sera demandé ce qui nous empêchait de nous aimer. On aura repris pied dans le récit, on aura pris soin des mots pour raconter nos vies. Mohamed Lamouri, vous pourrez le voir le 28 octobre au Transborder à Lyon, le 3 novembre à la Fondation Vuitton et les 15 et 16 novembre au TAP à Poitiers. Sa mixtape est disponible sur le site de La Souterraine. Mohamed Lakhdar-Tati, son film s'appelle « Fais soin de toi », vous pouvez le voir en octobre en Algérie et attendre, guetter sa sortie en France. Katia Kameli, son film en deux parties s'appelle « Le roman algérien », il est visible en ce moment dans l'exposition « Global Prayers » à Mannheim en Allemagne et vous pouvez guetter le vernissage de la vitrine du plateau le 8 novembre pour son projet « Stream of Stories ». Avant la nuit, je dis merci à Inès Duperron pour la préparation de l'émission, à Lionel Quentin pour la réalisation et à la technique ce soir. Merci à Valérie Lavalard et Adrien Roch. Vous écoutez France Culture, il est minuit, c'est déjà demain, c'est le jour d'après et c'est l'heure des nuits.